Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Emmanuel Macron devant des étudiants de l'université de Ouagadougou en ce moment, première étape de sa tournée africaine, suivie du discours avec Éric Biégala dans un instant. La France va interdire le glyphosate au moins pour les 3 ans qui viennent, au plus tard dans 3 ans. Elle se désolidarise de la décision prise hier à Bruxelles d'autoriser l'herbicide pour 5 ans encore, mais peut-elle vraiment faire cavalier seul? Question à laquelle répondra Pierre Bénazet dans cette édition. Le député Thierry Solaire, nouvellement République En Marche, annonce qu'il va finalement quitter son poste de questeur à l'Assemblée nationale. Il assure entendre monter une impatience à ce que la pluralité de la vie démocratique de l'Assemblée puisse s'exprimer rapidement. Commentaire politique de Frédéric Seyss. La Société Générale annonce davantage de suppressions de postes que prévu à l'horizon 2020, au moins 900 en plus donc des quelques 2500 déjà annoncés. Précision d'Isabelle Chailloux. Un campement de Roms évacué ce matin à Paris entre la porte de Clignancourt et la porte de la chapelle. 113 personnes, dont 55 enfants, ont été mises à l'abri, précise le communiqué de la préfecture de la région Île-de-France. Reportage de François-Pierre Noël, l'invité de la séquence interview, Antoine Glaser, spécialiste de l'Afrique. Dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Jesbert.
Bah tiens, justement, ce glyphosate fait-il partie de ce cocktail toxique, cocktail chimique qui empoisonnerait notre cerveau, selon notre invité, la biologiste Barbara Domenech. Elle sera avec nous dans la deuxième partie de la Grande Table à partir de 12h55.
C'est donc à Ouagadougou, première étape de sa tournée en Afrique, qu'Emmanuel Macron a choisi d'exposer ce qu'on appelle sa vision des nouvelles relations qu'il entend promouvoir entre la France et l'Afrique. Et il s'exprime en ce moment devant les étudiants à l'université de la capitale donc du Burkina Faso. Extrait de son propos liminaire où précisément il remet en cause même l'idée qu'il puisse y avoir une politique africaine de la France. On l'écoute.
Je ne vais pas venir ici vous dire que nous allons faire un grand discours pour ouvrir une nouvelle page de la relation entre la France et l'Afrique. Ou je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent. Parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Il y a une politique que nous pouvons conduire, il y a des amis, il y a des gens avec qui on est d'accord, d'autres non. Mais il y a surtout un continent que nous devons regarder en face. Je suis, comme vous, d'une génération qui n'a jamais connu l'Afrique comme un continent colonisé. Je suis d'une génération où on ne vient pas dire à l'Afrique ce qu'elle doit faire, quelles sont les règles de l'état de droit, mais où partout on encouragera celles et ceux qui en Afrique veulent prendre leurs responsabilités, veulent faire souffler le vent de la liberté et de l'émancipation comme vous l'avez fait ici.
Voilà donc quelques extraits de ce discours qui se poursuit encore à Ouagadougou. Bonjour Éric Biégala.
Bonjour Antoine.
Alors, plus de politique africaine de la France, c'est ce qu'on vient d'entendre. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce qui apparaît un peu comme un contre-pied?
Alors, c'est un contre-pied sans doute, mais c'est surtout une phrase assez forte et elle a été prononcée en tout début de ce discours à Ouagadougou, discours qui s'adressait aux jeunes, qui s'adressait aux étudiants, ils étaient environ 800. La toute première phrase prononcée par Emmanuel Macron est une formule très connue au Burkina, une formule de Thomas Sankara. Il a parlé de cet avenir que vous osez inventer. Et là aussi, sous les applaudissements. Alors, applaudissements en quelques minutes, et il y en a eu au moins 3, il n'y a plus de politique africaine de la France. Et ce sont des phrases fortes. Tout ce discours, on va dire, générationnel, pendant les 10 premières minutes de ce discours, le président Macron a répété « Je suis comme vous, je suis d'une génération qui n'a jamais connu l'Afrique colonisée. Je suis comme vous, jeune. » Il est impressionné par la volonté de la jeunesse burkinabé à défendre par deux fois la démocratie. Et puis, le président a commencé aussi à mettre un petit peu en lumière la manière dont il voyait l'Afrique, un continent central, a-t-il dit, global. Nous vivons un moment de bascule où les défis de toute l'Afrique doivent être relevés ensemble, en même temps. Ça, c'est une phrase typique d'Emmanuel Macron. Qu'il s'agisse de terrorisme, de changement climatique, de démographie, avec 450 millions de jeunes qui doivent être insérés sur le marché du travail. Il a également présenté son Conseil présidentiel pour l'Afrique, sorte de cabinet africain du président Macron qui rendra compte directement. Et enfin, il a commencé à parler de ses engagements, atteindre 0,55% d'aide publique au développement en fin de mandat et changement de méthode pour que cette aide publique au développement soit mise en œuvre en sortant des intermédiaires. L'aide publique au développement, a-t-il dit, doit être évaluée selon son efficacité avant de proposer d'inventer ensemble une amitié africano-européenne ou européano-africaine.
Merci Eric Bégala. À l'instant, il propose aux dirigeants européens une initiative pour évacuer, dit-il, les populations d'Africains qui sont en danger en Libye. Bonjour Antoine Glaser.
Bonjour.
Alors bon, rupture, est-ce qu'il faut vraiment y croire? J'allais dire cette fois-ci, parce que il y a eu beaucoup de présidents qui ont dit maintenant c'est fini, on ne parle plus de politique africaine.
Je vais être un peu cynique, compte tenu de la perte d'influence de la France en Afrique et compte tenu du fait que l'Afrique se mondialise totalement, je veux dire même qui pourrait recréer une France-Afrique comme celle de ce système intégré politique, militaire et financier qui a eu lieu en 1960 jusqu'à la chute du mur de Berlin en 89. Donc, je veux dire, ce qui est intéressant chez Emmanuel Macron, c'est au moins l'impression qu'il est dessillé. C'est-à-dire quelqu'un, je pense, qui a été bien depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, il a été bien briefé sur la réalité de l'Afrique, la réalité, les limites, finalement, de l'influence française actuellement. Et donc là, voilà, il pose sur la table la réalité, réellement du terrain. Qu'est-ce que peut faire vraiment la France en Afrique avec une armée française qui sert un peu de cache-misère à une présence française globalement en déshérence? Et c'est vrai, d'ailleurs, c'est vrai que c'est fort de démarrer en disant tout le monde la politique africaine. Évidemment qu'il vaut mieux avoir une politique de la France à l'égard de l'Afrique, comme il y a une politique à l'égard de l'Asie ou de l'Amérique latine. Mais surtout, ce que je trouve très fort quand même, vis-à-vis de sa propre armée, c'est de commencer un hommage à Thomas Sankara et aussi un hommage à cette jeunesse qui a quand même déboulonné Blaise Compaoré, qui a été vraiment l'homme de la France dans toute la région. On parle du Burkina Faso, mais il y avait le Libéria et autres, et qui a été quand même exfiltré par les forces spéciales françaises en octobre 2014 pour aller en Côte d'Ivoire.
Antoine Glaser, on vous retrouve donc dans la séquence interview pour parler plus globalement de cette nouvelle phase des relations entre la France, l'Europe et l'Afrique. Emmanuel Macron qui affirme à l'instant que les crimes de la colonisation européenne sont incontestables. C'est un autre thème, effectivement, dont on pourra parler tout à l'heure. Sur le glyphosate, Emmanuel Macron veut faire bande à part. Hier, l'Union européenne a réautorisé l'herbicide de Monsanto pour 5 ans. Le président français a de son côté assuré dans un tweet qu'il serait interdit ce glyphosate en France au plus tard dans 3 ans. La France n'a pas pu convaincre hier ses partenaires donc de limiter la durée de la prolongation. Mais Pierre Benazet, bonjour.
Bonjour Antoine.
Est-ce qu'elle peut vraiment, sur ce point, faire cavalier seul?
Eh bien, au risque de vous surprendre, je peux vous faire une réponse très claire. Apparemment, oui, selon la Commission européenne. La Commission a même tenu à rappeler ce matin qu'une fois qu'une substance est approuvée ou renouvelée, c'est aux États membres d'autoriser la mise sur le marché des produits qui contiennent ces substances. Ils sont même obligés, affirme la Commission, de refuser les autorisations s'ils ont des inquiétudes sur la sûreté d'un produit spécifique. Du coup, la France peut parfaitement faire cavalier seul, selon la Commission, parce que l'autorisation des herbicides basés sur le glyphosate est de la responsabilité des États membres de l'Union. En outre, les États sont tenus de conduire des évaluations du risque pour chaque produit, des évaluations qui doivent tenir compte des spécificités climatiques et agricoles de leur territoire. On a donc une réponse très claire de la Commission européenne qui ne peut que satisfaire la volonté du gouvernement de mettre en œuvre le principe de précaution. La Commission européenne va même jusqu'à ajouter qu'elle appelle avec insistance à une application durable de la directive sur les pesticides, à une introduction de pesticides bio et à faible risque, et à une interdiction de ce qu'elle appelle des coformulants utilisés dans certains produits basés sur le glyphosate. Le président français reçoit donc un soutien juridique entier de la Commission à sa volonté de limiter les effets de la décision d'hier. Et j'ajouterai qu'il y a déjà des précédents en France avec, par exemple, l'interdiction déjà décidée de substances autorisées en Europe, comme par exemple le glyphosinate ou bientôt les néonicotinoïdes.
Pierre Benazet, merci beaucoup. Vous étiez en direct de Bruxelles. La FNSEA, en tout cas, dénonce ce matin le nationalisme du président Macron, du glyphosate, des autres substances qu'absorbent nos organismes. On en reparle dans la dernière partie de la Grande Table avec la biologiste Barbara Domenex. La semaine prochaine, l'Europe va produire une liste de paradis fiscaux dans le monde. Bruxelles se déclare décidée, on le sait, depuis déjà plusieurs mois, à tout mettre en œuvre pour lutter contre l'évasion fiscale. Eh bien, l'ONG Oxfam lui demande aujourd'hui de balayer devant sa porte. Elle affirme qu'il y a 4 pays qui répondent aux critères qui sont définis par l'Union européenne elle-même, à savoir l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg et Malte, qui seraient donc des paradis fiscaux selon ces critères. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Or, ces pays ont assez peu de chances de figurer sur cette liste que s'apprête à produire l'Union européenne. Pour quelles raisons ?
Alors, on est sûr qu'ils ne seront pas sur la liste parce que, en fait, ils ne seront pas passés au crible des critères sur lesquels les pays de l'Union européenne se sont entendus. On le sait depuis plus d'un an. En septembre 2016, l'Union européenne a défini trois critères pour rentrer dans sa liste noire des paradis fiscaux: la transparence et l'échange d'informations, l'existence de régimes fiscaux préférentiels et un impôt zéro sur les sociétés. Il suffit de cocher une seule case sur les trois pour rentrer dans la liste. Celle que cochent l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg et Malte, c'est la deuxième, l'existence de régimes fiscaux préférentiels. Mais au moment où ces indicateurs ont été mis sur pied, il a aussi été décidé qu'aucun des 28 pays membres et de leur territoire ne serait examiné pour la liste. Alors quand on appelle la Commission européenne pour savoir pourquoi ce traitement de faveur, elle renvoie au Conseil européen, c'est-à-dire la réunion des États. Ce sont eux, en effet, maintenant qui gèrent ce dossier, cette liste noire. Ce n'est plus la Commission. Or, c'est toujours la même ancienne. Sur les sujets fiscaux, il faut l'unanimité. Alors comment voulez-vous que ces quatre pays ne bloquent pas une liste noire qui les montrerait du doigt ? On en revient toujours là. Le discours officiel, cela dit, c'est de dire que les pays de l'Union européenne ont déjà énormément avancé sur les questions fiscales. Ils sont d'accord pour échanger des informations bancaires, d'accord pour discuter d'une harmonisation des bases taxables des entreprises, d'accord pour tous les projets mondiaux qui visent à lutter contre l'inéquité fiscale. Pourquoi les accabler alors qu'ils font tant d'efforts ? Comprenez, la situation va évoluer. Les scandales Paradise Papers, LuxLeaks et autres sont une photographie du passé. L'Union européenne ne sera bientôt plus un espace dans lequel un pays dit allié peut piller les ressources budgétaires de son voisin. Bientôt quand ? Eh bien, on en reparle peut-être au prochain scandale et on attend impatiemment la liste.
Merci beaucoup, Marie Viennot. La Société Générale annonce davantage de suppressions de postes que prévu. Au total, 900, donc en plus des quelques 2500 qui ont déjà été annoncé dans le cadre d'un plan dit stratégique à l'horizon 2020. La Banque française vise plus d'1 milliard d'euros d'économies supplémentaires. Isabelle Chailloux.
Contexte difficile à tel point que la Société Générale va en fait entamer un vaste programme d'économies, plus d'1 milliard sur 3 ans. Nouvelle restructuration donc des activités pour la Société Générale, confrontée comme tous les réseaux bancaires à la révolution du numérique et à des taux d'intérêt toujours très bas qui pèsent sur la rentabilité. La Société Générale va donc supprimer 900 nouveaux postes. Elle avait déjà annoncé une réduction de ses effectifs en 2016. En tout, cela fera donc 3450 emplois en moins d'ici 2020. C'est près de 10% tout de même des effectifs de la banque de détail. Et cette fois, les mobilités internes, les départs en retraite ne suffiront pas. La banque reconnaît qu'il y aura bien un plan de départ volontaire. Réduction des effectifs, mais aussi du réseau de la Société Générale. Elle va fermer 300 agences en France. Sur 2000, la banque compte ainsi numériser 80% de ses processus en interne, par exemple pour les demandes de prêts, les souscriptions de produits financiers. Avec ce plan stratégique, la Société Générale va se serrer la ceinture, mais elle veut aussi se concentrer sur ses clients les plus rentables, les professionnels, les entreprises et la banque privée, autrement dit la gestion de fortune.
La monnaie virtuelle Bitcoin continue de grimper fortement ce matin. Elle approche maintenant du niveau record des 10 000 dollars. Sa valeur, en fait, a été multipliée donc par 10 en moins d'un an. Une hausse qui avive les craintes de bulles spéculatives, selon l'économiste Jean Tirole. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur intrinsèque et qui peut donc s'effondrer du jour au lendemain.
Midi 45 sur France Culture, la suite de votre journal, Antoine Mercier. En politique, le député Thierry Soler, qui a adhéré le week-end dernier à La République En Marche, annonce qu'il va quitter son poste de questeur à l'Assemblée nationale à la demande du président de l'Assemblée, François Drugy.
Et oui, député des Hauts-de-Seine assure entendre monter une impatience à ce que la pluralité de la vie démocratique de l'Assemblée puisse s'exprimer rapidement. Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour.
Thierry Soler, donc, il va quitter son poste. Est-ce qu'il faut voir un signe, peut-être, que le système mis en place par La République En Marche, par le macronisme en général, touche ici des limites?
Alors, n'allons peut-être pas si loin, mais en tout cas, il y avait jusqu'ici une certaine jouissance à maltraiter les usages et les coutumes qui garantissent un certain nombre de droits à l'opposition. C'est notamment le cas de ces postes de questeurs. Il y en a 3, dont un est traditionnellement dévolu à l'opposition. Thierry Soler, qui était jusqu'ici membre des constructifs, c'est-à-dire pas du Parti En Marche, avait utilisé ce subterfuge pour se faire élire. Mais comme il est désormais encarté au parti macroniste, la ficelle, déjà grosse, ressemble désormais à une corde. Pour dénouer la polémique, Thierry Soler n'a pas eu d'autre choix que d'annoncer son retrait du poste de questeur, très prisé des parlementaires parce qu'il permet d'avoir un œil sur le budget de l'Assemblée nationale. Avant cela, l'opposition s'était déjà plainte d'avoir été maltraitée. Il y avait ses votes à la chaîne, en commission, sans vraiment écouter la contradiction, ses amendements subrepticement déposés à 4h du matin, sans que les groupes d'opposition n'aient le temps ni l'expertise d'en analyser les conséquences techniques. Et puis, dans le même ordre d'idées, le cumul de Christophe Castaner entre sa fonction de ministre et sa place de chef du parti. Cela répondait aussi à cette idée hégémonique. Pourquoi prendre des gants, puisque le parti domine numériquement et politiquement la vie politique française. Alors dans ce renoncement de Thierry Soler, on peut effectivement voir une première inflexion. C'est le président de l'Assemblée lui-même, François de Rugy, qui a tourné le pouce vers le bas. Ce rouage essentiel du dispositif macroniste a contredit Thierry Soler, grand artisan pourtant de la césure de la droite pour Emmanuel Macron. Le mot « j'assume », qui était jusqu'ici très employé depuis le début de ce quinquennat pour répondre à toutes les polémiques, a été cette fois-ci discrètement remisé pour laisser la place à un recul.
Frédéric Saïs, merci.
Un campement de Roms évacué ce matin à Paris, Antoine, constitué de cahutes de bois serrées sur une voie de chemin de fer désaffectée entre la porte de Clignancourt et la porte de la Chapelle. Il a compté jusqu'à 300 personnes. Et
oui, cette expulsion ce matin, c'est la quatrième depuis 2015. 113 personnes, dont 55 enfants, mis à l'abri, selon l'expression de la préfecture de la région Île-de-France. François-Pierre Noël, bonjour.
Bonjour Antoine.
Vous avez assisté ce matin donc à ces opérations d'évacuation.
Oui, la nuit était courte pour ces Roms. Ils affirment avoir été mis au courant au dernier moment. D'ailleurs, dans l'allée principale du bidonville, on pouvait voir des meubles, des matelas ou de la vaisselle étalés par terre. Ce camp existe depuis 3 ans et c'est déjà, Antoine, la quatrième évacuation, vous l'avez dit. La dernière, c'était en février dernier après un incendie et les Roms sont revenus il y a quelques mois. La majorité d'entre eux sont roumains, la moitié à moins de 18 ans. Au total, ils étaient 250 au dernier recensement par la préfecture il y a quelques jours et seulement 113 sont montés dans les bus. Les autres sont partis dans la nuit ou bien la semaine dernière. Plusieurs habitants ont accepté de quitter leur camp sans protester face aux forces de l'ordre. L'hiver approche et les températures sont de plus en plus basses. Beaucoup d'entre eux sont soulagés d'avoir un endroit chaud pour dormir, mais ils ne souhaitent pas partir trop loin de Paris, surtout pas en banlieue. Et c'est bien là le problème. Comment vont faire les enfants scolarisés dans le 18e arrondissement s'ils sont hébergés à plusieurs kilomètres de leur école? Comment feront les Roms qui doivent se faire soigner aussi dans le même secteur? La préfecture l'assure, ces personnes auront la priorité pour un hébergement dans Paris, pas très loin de la rue des Poissonniers, mais la durée de leur séjour dans ces hôtels ou les centres d'hébergement n'est pas encore déterminée.
François-Pierre Noël, l'analyse à grande échelle des conversations de tout un chacun sur Internet ou sur les réseaux sociaux aurait une valeur prédictive. Facebook annonce en tout cas son intention d'étendre à d'autres pays l'utilisation de son logiciel de reconnaissance des tendances suicidaires chez ses utilisateurs après l'avoir testé avec succès aux États-Unis. Facebook cherche donc dans les publications, les commentaires, des expressions qui pourraient annoncer un suicide. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Expliquez-nous comment ça marche, comment ces analyses de données se font.
Alors rappelons que les utilisateurs de Facebook ont déjà la possibilité de signaler les messages inquiétants aux employés du réseau social chargés ensuite de les examiner et d'agir en conséquence. Désormais, un programme pourra le faire, basé sur une intelligence artificielle. Il est testé aux États-Unis depuis mars. C'était une réponse à la multiplication des suicides filmés et diffusés en direct sur le réseau social. Alors, des détails de son fonctionnement, Facebook ne dit à peu près rien, si ce n'est qu'il analyse systématiquement tous les contenus et cherche des questions comme « Est-ce que tu vas bien ?» ou « Puis-je t'aider ?» En cas de message suicidaire détecté, Facebook peut transmettre des ressources sur la prévention du suicide ou contacter les ressources. L'entreprise souligne qu'elle travaille avec 80 ONG dans le monde dédiées à la prévention du suicide. Reste que cette annonce pose plusieurs questions. D'abord, à quelle autre fin et contenu cette même technologie pourrait être adaptée? Facebook a assuré prendre ces questions très au sérieux, mais tout en expliquant que les utilisateurs ne pourront pas désactiver l'observation de leur poste. Question corollaire, quelle protection des données personnelles? Facebook annonce que ce service sera bientôt disponible dans le monde entier, sauf en Europe, sans plus de précision. Rappelons que dans l'UE, le transfert des données personnel est encore protégé et encadré. Enfin, cela dit quelque chose du rôle donné à ces plateformes. On peut se réjouir que Facebook, qui compte 2 milliards d'utilisateurs, s'intéresse à la prévention du suicide. Mais ce qui serait inquiétant, c'est qu'elle puisse un jour jours se retrouver comme les seuls en position de le faire. À trop les laisser jouer le rôle des politiques publiques, les États pourraient accroître un peu plus leur dépendance aux plateformes.
Voilà, Facebook veille sur nous, donc, si je comprends bien. Merci beaucoup, Catherine Pétillon. À l'instant, France Télévisions annonce que sa décision de maintenir le rythme actuel de diffusion des magazines envoyés spéciaux et compléments d'enquête que le groupe avait envisagé de réduire pour faire face aux coupes budgétaires. C'est ce qu'annonce le directeur de l'information à l'instant, Yannick Letranchant. Retour vers notre invité de la séquence interview, Antoine Glaser. Rebonjour. On vous
Bonjour.
A entendu commenter les déclarations d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Ce renouveau, vous en parliez tout à l'heure comme d'une nécessité du fait de la situation, effectivement, que c'était
réel politique,
mais quand même, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il n'y a pas en plus quelque chose de nouveau véritablement dans ce positionnement?
Ce qu'il y a vraiment de plus par rapport à ses prédécesseurs, qu'ils soient de droite comme de gauche d'ailleurs, c'est vraiment, la France a toujours été scotchée, même après la fin de la guerre froide, avec les dirigeants africains qui ont très largement instrumentalisé la politique africaine de l'époque. Et c'est vrai que là, il y a vraiment un appel aux sociétés civiles africaines. Ça veut dire, quand il dit il faut vraiment sentir souffler le vent de la liberté et de l'émancipation, si vous êtes un autocrate africain d'un pays d'Afrique centrale, c'est quasiment un appel à la révolte. C'est un appel absolument populaire. On n'a jamais entendu quand même un président français, habituellement, c'est plutôt un dialogue paternaliste vis-à-vis de l'Afrique. C'est nos amis africains, il faut attendre, vous n'êtes pas prêts, la situation ne le permet pas. Là, c'est carrément un appel à la démocratie, et voilà, il faut bouger, etc. Et puis de dire que maintenant, la France, on voit bien qu'il y a... En même temps, c'est la réelle politique, et en même temps, on sent que petit à petit, il va désengager... Aussi, la France peut-être même, à un certain moment donné, l'armée française, mais on sent, en même temps, c'est un dialogue, quelque part, de désengagement. C'est vos problèmes, ce sont vos problèmes, c'est à vous d'oser.
Tout ça va être bien reçu, j'imagine, c'est ce que les Africains veulent
entendre. En tout cas, ça a diminué une situation déjà sur place au Burkina Faso qui n'était pas en faveur de la France, et c'est certain que, voilà, il y a quand même une attente. Ceci dit, il y a les intérêts stratégiques et de la diplomatie économique de la France demeurent.
Éric Bégala.
Arrogant comme un Français en Afrique, c'était le titre de votre dernier livre, hein, Antoine Glaser. Vous avez l'impression que là il y a un changement de pied?
Oui, ça veut dire l'arrogance. Il y avait un sous-titre, évidemment, les amis de chez Fayard, c'était les occasions perdues. C'est-à-dire, je me réjouis pas de cette arrogance, mais l'arrogance, c'était vraiment une situation réelle. Ça veut dire l'arrogance française, c'était toute cette politique assimilationniste. Quand vous voulez, on parle toujours, ça fait rigoler nos ancêtres, les Gaulois, mais quand même, pendant 50 ans, on a voulu créer des Africains à notre image. C'est ça l'arrogance au niveau culturel, au niveau de tout ce qu'on est. On est les Lumières. C'est l'esprit Tour Eiffel, sans voir les réalités de ce continent avec un vrai kaléidoscope, avec une complexité incroyable d'ailleurs dont a parlé Emmanuel Macron. Donc c'est vrai que nous on voyait l'Afrique comme chez nous notre précaré. Je veux dire, bon, c'est ça l'arrogance française en Afrique. Ça va au-delà d'un trait de caractère. L'arrogance française en Afrique, c'est exporter son code napoléonien, exporter un certain nombre de nos lois, de notre système éducatif, système de santé, etc.
Mais maintenant, quelle puissance domine en Afrique?
Là, pour l'instant, c'est le symbole. Personne ne domine l'Afrique, mais le symbole, c'est quand même, par exemple, cette semaine, il y avait le président Ismaël Omar Guelleh de Djibouti qui est allé en Chine, qui a été reçu par Xi Jinping, et les Chinois veulent pénétrer l'Afrique. Ils sont déjà sur l'ensemble du continent, contrairement aux anciennes puissances
sans
coloniales.
Sans arrogance, c'est ça, vous
voulez dire. Et voilà, mais eux, ils y vont franchement. Et voilà, je veux dire, il y a 10 000 soldats déjà en Chine, et c'est vrai que la France, quand Macron parle maintenant de plus en plus des interventions françaises, vous allez voir, ça va se réduire au Sahel. La France s'est retirée de la Centrafrique, on parle même plus d'Afrique centrale. C'est vraiment le Sahel, c'est toute cette zone encore avec des bastions économiques. Enfin, faut pas oublier quand même qu'il va parler Europe et Union africaine à Abidjan, mais il va quand même poser la première pierre d'un tramway à Abidjan, et en fait que Bouygues, Thalès et Alstom ont eu du mal à avoir face à la Corée du Sud, et c'est la France qui donne des prêts concessionnels 1,4 milliard d'euros. Donc je veux dire, il y a défense des intérêts français aussi.
Et ce sont d'ailleurs les derniers investissements massifs français. Vous dites d'ailleurs dans votre livre que, en fait, on a raté le coche sur la plupart de ce qui a trait aux investissements en Afrique.
Absolument, ça veut dire on parle toujours de l'Inde, du Brésil, de la Chine, mais on oublie que nos propres partenaires, je veux dire les Allemands, la France se plaint toujours d'avoir que des grands groupes en Afrique. C'est vrai que les PME allemandes sont vraiment à l'offensive. Quand vous allez à Abidjan, même si vous êtes dans une chaîne française, ça parle toutes les langues. Vous entendez russe, sud-coréen, mais aussi allemand, espagnol, italien. Donc la France a vécu, s'est endormie dans toute cette zone, parce que finalement, c'était hyper protégé, les contrats, vous les aviez politiquement, vous appuyez l'ambassadeur de France, qu'appelait l'ancien vieux, le président Fouette-Boigny, vous aviez le contrat.
Est-ce que l'Afrique se développe en un mot? Selon vous, selon une bonne
c'est l'Afrique, c'est un ligueuse. Il y a des zones de déshérence et des zones de très fort développement. D'abord parce qu'il y a quand même des gros grands groupes comme Orange qui ont plus d'abonnés maintenant dans un pays comme l'Égypte qu'en France.
Merci beaucoup Antoine Glaser d'être venu commenter pour nous ce discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou qui s'est achevé maintenant. Un temps instable, affirme Météo France, avec un ciel chargé, parfois porteur d'averses, des températures de 4 à 8 du nord-est au Massif central, 7 à 13 dans le reste du pays, jusqu'à 14 degrés cet après-midi près de la Méditerranée. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.